Mikir sepastil.
Mikir sepastil.
Oh, mikir sepas.
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 14 avril. Aujourd'hui, on va parler d'une proposition de loi qui va être examinée sous peu à l'Assemblée concernant l'interdiction des free parties. Enfin, elle n'était déjà pas très autorisée, mais en tout cas, on va dire un accroissement de leur répression. On va parler un petit peu de répercussions de la guerre en Iran et alentour avec notamment quelques actions, une action de désarmement qui a fait un coup assez spectaculaire en Irlande. Et puis on va parler du gaz hélium, qui, vous ne le savez certainement pas, en tout cas moi je viens de l'apprendre, est un de ces composants stratégiques qui se retrouve bien menacé lui aussi par la situation au Moyen-Orient. Et on terminera puisqu'on parle de gaz, des data centers, de leur consommation, peut-être justement en gaz naturel, notamment en France, puisque certains de ces data centers aimeraient tourner au gaz et pas à l'électricité, voilà. Et à la fin, on donnera la parole à Yannou, Yannou qui est en stage avec nous, un jeune qui est venu pour la semaine, qui s'intéresse aux médias en général et qui nous parlera et nous fera une chronique justement sur l'économie bleue, un sujet qui le passionne en ce moment. On commence donc par ce séisme dans le monde de la fête, et notamment de la fête libre, les fameuses free parties ou rave parties, avec un nouvel arsenal de sanctions qui vient d'être voté par l'Assemblée, avec notamment des amendes aussi pour des gens qui ont simplement participé à ces regroupements. C'est une proposition de loi qui vient donc d'être adoptée par les députés jeudi dernier, qui prévoit une peine allant jusqu'à 6 mois de prison ou 30 000 euros d'amende pour ceux qui organisent ces événements, et 1 500 euros d'amende pour les participants, 3000 même en cas de récidive. Bon, le texte, il a été voté à l'Assemblée, il doit maintenant aller au Sénat, il y a donc une grosse mobilisation pour justement essayer de l'amender, donc notamment avec pas mal de pétitions qui circulent. En tout cas, tout d'abord cet article du Monde qui donc fait un petit peu le point sur cette proposition de loi. Cette loi a été donc adoptée ce jeudi 9 avril par l'Assemblée nationale en invoquant les nuisances engendrées pour les riverains, notamment les agriculteurs, les propriétaires des champs dans lesquels parfois s'organisent justement ces gros rassemblements festifs. C'est donc un arsenal renforcé de sanctions contre les free parties qui vient d'être voté au grand dam des groupes de gauche ou d'acteurs du milieu qui dénoncent une offensive sécuritaire contre ces modèles que estiment de contre-culture. Cette proposition de loi était défendue par une députée, Laetitia Saint-Paul, d'une Maine-et-Loire pour le groupe Horizon. Au cours d'une journée qui a été réservée à son groupe, elle a été adoptée en première lecture, avec 78 voix pour et 67 contre, le soutien notamment du camp gouvernemental et de l'extrême droite envers cette loi. Le texte, je vous le disais, devra normalement désormais aller au Sénat. Laetitia Saint-Paul, donc la porteure de ce texte, dément toute volonté de stigmatiser une culture ou la musique qui s'y rapporte, mais elle souhaite faire en sorte qu'aucune organisation d'événements ne s'affranchisse des règles communes. Dans l'Assemblée, donc, les débats ont opposé les députés qui dénonçaient d'une part les dégradations engendrées par ces rassemblements techno-illégaux, notamment dans des champs d'agriculteurs, et ceux qui défendent une façon d'aborder la fête de manière non marchande, en reprenant par exemple les mots du député Loire-Atlantique insoumis Andy Kerbrat. Les autorisations préfectorales ne sont pas données, a-t-il affirmé. Il accuse ainsi l'État d'organiser l'illégalité des free parties. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que dénonce une partie des associations vent debout contre cette loi, puisque réclament plus de dialogue et que des dialogues avaient été amorcés avec les gouvernements précédents. Et cette loi vient donc mettre un terme abrupt de la part du gouvernement. Le texte adopté, donc, il prévoit une peine qui peut aller jusqu'à 6 mois de prison, une amende de 30 000 euros, contre le fait de contribuer, que ce soit de manière directe ou indirecte, à la préparation d'une free party, mais aussi à sa mise en place ou bien au bon déroulement. Et c'est là que vous voyez que ça commence à déraper un petit peu. La free party, qu'elle soit d'ailleurs non déclarée ou bien même carrément interdite par la préfecture. Cette définition est très large. Pour la porteuse du texte, elle est nécessaire face à la difficulté effectivement d'identifier les organisateurs de ces fêtes. Elle a fait une concession en expliquant que les personnes intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction du risque ne pourront pas être considérées comme contribuant à l'organisation. Mais ça restera quand même des participants qui, je vous le rappelle, eux aussi peuvent être amendés. Un amendement d'ailleurs des Insoumis est venu ajouter à la liste des personnes qui contribuent à installer un lieu de repos ou un camion de restauration, puisque ceci aussi était visé par cette loi. Sinon, dans l'autre arsenal répressif, il y a la confiscation obligatoire du matériel. Le texte crée en plus de cela une amende donc, de 1 500 € pour les simples participants et, je vous le disais, 3 000 € en cas de récidive. Pour l'instant, la loi prévoit une amende de 1 500 € pour des organisateurs, mais il n'existait pas jusqu'à maintenant d'infraction spécifique pour ceux qui viennent participer à ces fêtes. Les sanctions étaient jugées justement insuffisamment dissuasives pour la ministre déléguée à l'intérieur, Marie-Pierre Védrenne, pour qui la France attire ainsi des fêtards de pays à la législation moins souple. On sait par exemple le fait que l'Italie ait mis en place une politique très répressive fait que de nombreux Italiens viennent organiser leur free party, notamment dans le sud de la France. Ces free parties, donc fêtes libres en français, prônent un accès gratuit ou sur donation libre. Elles se tiennent souvent sur plusieurs jours dans des champs ou des lieux abandonnés et se caractérisent par leur illégalité, contrairement aux rave parties qui sont maintenant apparemment le terme désigné pour des fêtes déclarées avec billetterie. Nombre de ces free se déroulent sans incident, mais en effet des nuisances, que ce soit sonores ou dégradation de terrain ou des dérapages, sont notées dans cet article du Monde, par exemple les excès de drogue. C'est tout ça qui est reproché à ces fêtes, qui mobilisent aussi souvent des secours et des forces de l'ordre. Vous vous rappelez peut-être 2025 dans l'Aude, de cette fête qui avait provoqué des affrontements entre des agriculteurs et teufeurs, puisque les agriculteurs estimaient justement qu'ils venaient juste de se taper des incendies et que la fête avait été faite sur des lieux qui étaient en train d'être remis en l'état. Pour ce qui est des défenseurs donc, de la fête libre, on peut parler des signataires d'une tribune qui a été publiée dans Télérama, avec l'association Technopole qui l'a portée, une association de défense des musiques électroniques. Ceux-ci rétorquent qu'une politique qui criminalise et réprime aussi violemment la fête libre n'est pas de la sécurité, mais de l'autoritarisme. Pousser la fête encore davantage dans la clandestinité aggrave exactement ce qu'on prétend combattre, font-ils valoir. Par exemple, le fait que les participants n'appelleront plus les secours, et soulignant là le fait que c'est pas en mettant des interdictions de plus en plus fortes que ces fêtes vont s'arrêter a priori. Il y a aussi une autre question qui a été débattue, c'est celle du nombre des participants, à partir duquel une free party est considérée comme illégale. Ça inquiète beaucoup donc ce milieu, puisque dans le nouveau texte, on passe à 250 participants pour le seuil au-dessus duquel une déclaration en préfecture est censée être faite, alors que pour l'instant on est sur 500 participants minimum. Or, ces événements rassemblent en moyenne 300 personnes, donc ce sont en général des plutôt petites free parties qui sont organisées, avec, vous l'imaginez, assez peu de débordements. Et donc, si on passe le seuil à 250, ça criminalise toute cette partie-là aussi du mouvement qui s'organise normalement de manière assez tranquille, discrètement. En dessous de 500 personnes, donc c'est ce qu'elle rajoute cet article, il y a très peu de problèmes en général. C'est ce que ça a, par exemple, rappelé un député socialiste de la Drôme, Paul Christophe. Et il rajoute que sanctionner les simples participants est un basculement juridique dangereux. La ministre, qui est donc pour cette loi, a rappelé que le gouvernement avait prévu d'aller encore plus loin avec un autre projet qui s'appelle Riposte. Voilà, c'est un peu violent comme terme. Et celui-ci devra être examiné au Sénat au mois de mai. Dans ce projet de loi Riposte est prévu une peine qui va jusqu'à 2 ans de prison, 30 000 € d'amende pour l'organisation des événements. Et là aussi, un délit de participation serait créé avec une amende allant jusqu'à 300 €. C'est d'ailleurs un point relevé dans le texte qui accompagne une des pétitions qui s'oppose à cette et qui ont fleuri là depuis ce week-end, qui s'oppose à cette proposition là. Voici ce qu'on peut lire donc dans le communiqué de cette pétition. La définition d'un ou une organisatrice dans cette nouvelle loi est élargie. Elle soulève ainsi plusieurs inquiétudes et il rappelle justement le fait de mettre en place le système de diffusion, donc de filer la main à l'installation, de participer à l'édification du mur de son, mais aussi de transporter du matériel de sono depuis ou vers le site du rassemblement, mais aussi d'installer un lieu de repos et de convivialité sur un terrain occupé ou d'y mettre en place un camion de restauration. Bon, ça, je vous l'ai dit, il y a eu un amendement par rapport aux restaurateurs. Mais en tout cas, toute personne qui essaye de faire en sorte, qui vient par exemple, notamment pour apporter des espaces safe, eh bien, est possiblement criminalisable aussi. Cet extrait de la proposition de loi, donc, est une porte ouverte à toutes les dérives, continue le texte. Le fait de aider à porter une enceinte, de transférer un flyer ou encore de mettre en place un espace pour se reposer pourrait vous envoyer au tribunal. Et il rappelle la menace qui pèse donc sur ces associations de réduction des risques, RDR, comme on dit dans le milieu, qui sont impactées et qui sont souvent sur place, notamment pour éventuellement des problèmes liés aux prises de drogue. Ces derniers d'ailleurs agissent dans le cadre de la santé publique, il y a un article de loi du Code de la santé publique, et souvent sont conventionnées avec les pouvoirs publics, mais elles se risquent de se retrouver en porte-à-faux avec ces nouvelles lois qui pourraient criminaliser leur simple présence sur ces free parties. Sous couvert de plus de sécurité, cette proposition de loi ignore donc des besoins humains essentiels, mettant en réalité en danger les participants et criminalisant des associations qui vont réaliser des actions de santé publique essentielles à tout rassemblement festif.
Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Et pour compléter cette actualité sur les free parties, on va faire nous aussi un peu de prévention, de la RDR comme on dit, avec un petit article court écrit dans les colonnes du journal en ligne Contre-Attaque et qui me semblait important de relayer, qui s'intéresse et qui s'inquiète de la prise de plus en plus fréquente de kétamine, cette drogue, notamment chez les plus jeunes. Pas uniquement donc dans les marges extrêmes, pas seulement dans des contextes de grande précarité, mais aussi dans des espaces de plus en plus banalisés, des soirées, des clubs, des cercles sociaux ordinaires. La kétamine est souvent décrite comme une drogue gérable, occasionnelle, parfois même comme moins dangereuse que d'autres. Vous le savez peut-être, c'est à la base un anesthésiant pour animaux très fort. Et c'est précisément cette banalisation qui est en train de produire une crise sanitaire silencieuse. C'est ce, en tout cas, à quoi veut alerter ce média. Les faits médicaux aujourd'hui sont très clairs. Des services hospitaliers voient arriver des adolescents et de jeunes adultes qui présentent des atteintes sévères de la vessie. Ces atteintes sont directement liées à la consommation donc, de kétamine. On parle de douleurs chroniques, d'inflammation persistante, de diminution drastique de la capacité urinaire, des envies d'uriner incessantes, parfois d'incontinence. Ces pathologies donc, ne sont pas anecdotiques. Elles sont reconnues, documentées et dans certains cas irréversibles. J'ai entendu personnellement par le biais de quelqu'un médecin en Royaume-Uni qu'ils ont vu aussi de très nombreux jeunes atteints. Et c'est aussi souvent malheureusement lié au monde de la fête et de la nuit. Un point dérange particulièrement, c'est la rapidité. Puisqu'il ne faut pas consommer sur plusieurs décennies pour avoir ces symptômes, ni avoir des profils marginaux comme on imaginerait des toxicos complètement addicts et qui finiraient par avoir des effets sur le corps. Là, ça peut vraiment toucher tout le monde et assez vite. Donc on parle là de jeunes qui sont parfois à peine sortis de l'adolescence. La kétamine a une toxicité spécifique sur les voies urinaires puisqu'elle va se fixer notamment dans les reins et à force d'usage répété, la vessie se fibrose, se rétracte et perd sa fonction normale. On peut donc arriver à même des ablations de vessie, c'est-à-dire qu'après on est parti pour une vie entière à devoir utiliser des sachets, etc. Donc ce ne sont pas des effets secondaires rares, c'est même un des effets secondaires principaux, des conséquences qui sont désormais bien identifiées par le corps médical. Alors l'article s'interroge, pourquoi la consommation progresse-t-elle aussi vite ? Eh bien parce que la kétamine bénéficie de cet angle mort collectif. Elle est connue comme anesthésique en milieu médical, parfois évoquée pour des usages thérapeutiques qui sont très encadrés. Ça crée donc une image de sécurité. Mais ce qui se dessine ressemble aujourd'hui à une épidémie silencieuse qui se répand notamment en France. Ça ne fait pour l'instant pas la une des journaux, mais laisse derrière elle des corps durablement abîmés, des vies contraintes par des douleurs chroniques et un système de soins qui voit arriver, donc, je vous le disais, des patients de plus en plus jeunes. Donc voilà, restez vigilants si vous entendez parler de cela autour de vous et surtout continuez à faire de l'information auprès peut-être des plus jeunes qui seraient peut-être potentiellement victimes des effets de cette drogue. Allez, on repart sur l'actualité de la guerre avec cette action en Irlande, une action directe qui a fait pas mal courir sur les réseaux sociaux. C'est un avion de l'armée américaine qui a été cloué au sol. Une action très efficace et pourtant une seule personne s'y est mise. Quelqu'un a été en effet filmé avec sa tenue noire et une hache. Il a mené cette action, une scène assez surprenante. C'était le 11 avril à l'aéroport de Shannon, on est à l'ouest de l'Irlande. Sur les images de vidéosurveillance, on voit une silhouette sombre monter sur le tarmac, grimper sur un avion de guerre de l'armée états-unienne et y donner des grands coups de hache. L'appareil visé était un C-130, un avion de transport de troupes qui devait se diriger vers le Moyen-Orient, donc servir aux guerres menées en Iran et au Liban. L'alerte a été donnée vers 9h45, hein. Les forces de sécurité de l'aéroport sont intervenues en urgence. Ils ont dû faire venir un escalier mobile pour monter à bord de l'appareil, mais entre-temps, deux vols ont été retardés et un avion a dû attendre l'autorisation d'atterrissage. Et l'appareil visé de ces fameux coups de hache, eh bien, il a subi des dégâts très importants, il est resté cloué au sol, puisqu'il va devoir repartir en carrosserie visiblement. Un C-130 Hercule, apprend-on, ça coûte 62 millions de dollars. Donc en termes de rapport coût-efficacité, le sabotage était pour le moins réussi, une action directe contre la guerre, peut-être la plus efficace de l'histoire. Et demande cet article, toujours de contre-attaque, si tous les avions de guerre étaient cloués au sol, plus aucune attaque, plus aucun bombardement ni génocide ne serait possible. Voilà, et cette action a surtout démontré que les aéroports, y compris des zones avec du matériel militaire qui circule, bah, visiblement ne sont pas si impénétrables que ça. Ce militant, pour l'instant anonyme, âgé de 40 ans, a été arrêté et placé en garde à vue. Comme lui, d'ailleurs, de nombreux Irlandais s'opposent à l'atterrissage d'avions états-uniens dans leur pays. De très fortes mobilisations ont lieu dans ce pays depuis des années pour soutenir la Palestine et plus globalement contre le colonialisme. L'action réalisée ce 11 avril s'inscrit d'ailleurs dans le sillage de nombreux autres sabotages par le passé, que ce soit contre les guerres d'Indochine, du Vietnam ou de l'Algérie, qui ont chacun joué leur rôle, à chacun à leur manière. Et termine cet article, n'oublions jamais que la guerre repose d'abord sur un appareil technologique et logistique, et que sans pétrole, sans maintenance et sans flux, donc sans le soutien actif des travailleurs et travailleuses qui travaillent dans ces secteurs, elle ne peut avoir lieu. Puisqu'on est dans la logistique, je vais vous parler un petit peu d'hélium. Ce fameux gaz qu'on connaît surtout pour déformer la voie ou remplir les ballons d'anniversaire, eh bien, figurez-vous, je viens d'apprendre qu'il avait une importance mondiale dans notamment les technologies de l'information, l'IA par exemple. L'autre choc mondial qui menace la planète tech, titre Les Échos et que le New York Times, titre Les Échos qui cite le New York Times, c'est donc celui de l'hélium. On y apprend que l'industrie mondiale des semi-conducteurs tremble, puisque le Qatar produit à lui seul entre 30 et 40% de ce gaz qui est nécessaire donc à la fabrication des puces électroniques. C'est donc un tiers de l'approvisionnement mondial de l'hélium qui est coincé pour le moment dans le Golfe Persique, en raison bien évidemment de la guerre en Iran et de la fermeture du détroit d'Ormuz. Ce gaz, donc méconnu et irremplaçable, plane en effet sur toute l'économie mondiale, notamment puisque celle-ci repose en partie sur l'essor de l'IA. C'est un gaz inodore, incolore, plus léger que l'air, qui est en effet indispensable à la fabrication des puces informatiques qui viennent alimenter l'intelligence artificielle et ces monstres de data center. C'est donc un des moteurs de la bourse et de la croissance états-unienne du moment. L'hélium est celui qui est utilisé, c'est un sous-produit du traitement du gaz naturel. Il est produit donc principalement aux États-Unis et au Qatar, et je crois qu'il y a aussi quelques sources en Algérie. Donc quand le Qatar a cessé d'en produire ce mois-ci, c'est un tiers de l'approvisionnement mondial qui a disparu. Les perspectives ont même empiré le 19 mars dernier, quand l'Iran a frappé, a bombardé, un grand complexe de liquéfaction de gaz naturel au Qatar, ce qui a endommagé donc les circuits de production de l'hélium, et ça pourrait prendre des années avant d'être de nouveau reconstruit et efficace. Ce complexe. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus d'hélium ? Eh bien, les principaux fabricants de puces pourraient avoir du mal à maintenir leur production, avec en plus des effets en cascade pour tous les appareils qui sont alimentés par ces semi-conducteurs. Les fabricants sont, par exemple, TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, donc, qui est basée à Taïwan, puisqu'une grosse partie de cette technologie a lieu dans l'Asie du Sud-Est. On parle aussi de Samsung Electronics, de SK Hynix, etc., des groupes dont vous n'avez peut-être pas entendu parler si vous ne faites pas partie de l'industrie du secteur de l'électronique. Mais ce sont des monstres au niveau mondial. Et dans les appareils qui sont alimentés par semi-conducteurs, on peut citer les iPhones d'Apple et aussi les serveurs IA de NVIDIA, le géant aussi de la carte mère et des cartes graphiques. L'hélium, en effet, il est utilisé à plusieurs étapes de la fabrication de ces puces. Tout d'abord, quand on les grave, sous une technologie qui ressemble à du laser, donc des machines complexes viennent graver des minuscules circuits sur des très fines plaquettes de silicium, mais ça chauffe à des températures incroyables et c'est l'hélium qui les refroidit par en dessous pour maintenir justement la bonne température. Une fois que les plaquettes ont été lavées avec des produits chimiques, l'hélium est encore utilisé, notamment pour éliminer les résidus toxiques. Et c'est aussi utilisé dans pas mal de technologies de pointe, utilisées notamment dans l'imagerie médicale, notamment dans celle des IRM. L'hélium pressurisé est en effet le liquide le plus froid qu'on puisse produire sur Terre. Il va refroidir des aimants supraconducteurs dans les appareils, donc IRM, d'imagerie par résonance magnétique. Une pénurie d'hélium va donc affecter directement la recherche scientifique, les IRM et même les voyages dans l'espace. Bon, alors où est-ce qu'on en est des stocks ? Selon des analystes, il pourrait se passer quelques mois avant que l'industrie des semi-conducteurs vienne à manquer d'hélium, puisque les fabricants de puces en ont stocké et que certaines expéditions sont déjà en mer, parties par exemple pour l'Asie au moment où la guerre au Moyen-Orient commençait. Mais on ne sait pas si les stocks vont suffire durant la période où le commerce mondial de l'hélium va devoir se réorganiser pour éviter le détroit d'Ormuz, qui est cette unique voie navigable presque fermée aux navires, vous le savez, depuis le début de l'attaque israélo-américaine du 28 février. En ce moment, c'est environ 200 containers spécialisés utilisés pour transporter l'hélium qui sont bloqués dans le golfe Persique. Il pourrait falloir des mois pour les repositionner, les remplir à nouveau et livrer le gaz aux clients. Parce que c'est l'autre problème de cet hélium, c'est qu'il est assez compliqué à mettre en bouteille et à garder. Et tout cela face à une demande qui n'arrête pas de grandir. Les fabricants de puces font face à une demande insatiable du secteur de l'IA. Leur capacité à le faire dépendra donc en partie de la capacité de ces fournisseurs d'hélium de leur en livrer. La logistique est compliquée, je vous le disais, puisque l'hélium doit être transporté dans un conteneur citerne cryogénique, donc très très froid, qui va le maintenir sous forme liquide à une température proche du zéro absolu. C'est presque moins de 170 degrés Celsius, hein. On est quasiment comme dans l'espace. Donc c'est des grosses technologies, et à de telles températures, l'hélium doit être transporté comme une matière dangereuse. Seulement certains camions et bateaux peuvent en effet donc le faire. C'est de l'azote liquide qui va absorber la chaleur pendant le trajet. Mais une fois que l'azote est épuisé, l'hélium va se réchauffer. Il se dilate très rapidement en gaz, donc il se regazifie et il devient dangereux à stocker. Et en plus, je crois qu'il ne tient pas parce qu'il est trop fin et donc il passe même à travers les récipients métalliques qui sont conçus à cet effet. Donc les fabricants de puces, même s'ils ont des stocks, ils ne pourront garder qu'environ un mois et demi d'approvisionnement en réserve. Sinon, ça va commencer à chauffer. C'est ce qu'explique assez simplement un ancien cadre chez Air Liquide et PDG de Garrison Venture, Richard Brook. Donc lui travaillait dans un cabinet conseil justement dans l'industrie de l'hélium. Donc je vous le disais, pour l'instant, plusieurs mois d'avance pour les fabricants de puces, mais après ça risque d'être très compliqué. Pendant ce temps, les sociétés gazières se démènent pour trouver d'autres sources et essayer d'obtenir des conteneurs supplémentaires. Les entreprises de semi-conducteurs de la Corée du Sud, qui vont produire des puces mémoire essentielles de l'IA, ont déjà assez de mal aujourd'hui à en fabriquer pour suivre la demande mondiale, alors qu'ils avaient tout l'hélium dont ils avaient besoin. Alors vous vous doutez que la pénurie fait peur à tout le monde, les prix ont déjà augmenté. Et donc, quand l'hélium est rare, c'est au plus offrant qu'il va. Le plus gros portefeuille va l'emporter. Il y a déjà eu des pénuries par le passé. Ce qui s'est passé, c'est que les fabricants de puces, qui eux sont plutôt bien au niveau argent, ils nagent même dans les milliards de dollars, ils ont pu surenchérir, ils ont pu suivre l'inflation, et donc raflant l'hélium à d'autres secteurs qui l'utilisent, comme je vous le disais, les produits pharmaceutiques ou l'imagerie médicale. Voilà, la guerre des robots contre les humains, finalement, ça ressemble moins à Terminator qu'à une simple salle des cours de la bourse avec les plus riches qui l'emportent.
Il y a de quoi se vendre la gueule, non ?
Allez, un dernier sujet tech avant de laisser la parole justement à Yannou qui va aussi nous parler d'une autre forme d'économie. On reste dans la thématique de l'IA et des data centers qui sont visiblement de vraies usines à gaz, puisqu'en France, pour les besoins de l'IA, justement, des data centers voudraient bien tourner au gaz fossile. C'est ce que nous apprend le journal Reporter. Ce scénario semble absurde, puisque l'électricité est quand même plutôt abondante en France. Eh bien pourtant, des entreprises qui portent ces projets de data centers, des usines abritant des serveurs informatiques nécessaires au fonctionnement de l'intelligence artificielle, ils envisagent de se tourner vers le gaz naturel pour gagner du temps et émettre au passage des millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère puisque c'est un gaz issu des énergies, c'est une énergie fossile. C'est la directrice du groupe principal français de distribution de gaz, GRDF, qui l'a partagé à une poignée de journalistes le 1er avril dernier, mais ce n'était pas une blague. Elle expliquait donc que GRDF était régulièrement sollicité par des opérateurs de data centers qui demandent des solutions de raccordement au réseau gazier. Parce que pour eux, les délais annoncés en ce qui concerne le réseau électrique sont trop longs et ne sont pas compatibles avec leur calendrier. Hein. C'est la vraie course, c'est un peu la ruée vers l'or avec l'IA. Et pour le réseau électrique, vu les consommations que demande un data center, ça prendrait 5 à 7 ans pour se connecter. Donc pour eux, c'est pas possible d'attendre et ils veulent du gaz. Donc, et pas de manière ponctuelle hein, en cas de secours, mais bien vraiment comme énergie principale pour alimenter ces data centers. Donc une gabegie climatique et une absurdité énergétique quand on sait que ces centres de données nouvelle génération ont une consommation électrique équivalente à celle de grandes métropoles. Et en plus, le cycle est aberrant au niveau énergétique, puisqu'il faudrait combiner, ce sont des cycles combinés de gaz, avec des centrales qui vont fabriquer d'électricité grâce à la combustion du gaz, et le rendement de cette méthode est d'environ 50%, donc il y a la moitié qui part direct dans l'air. Donc pour produire une quantité donnée d'électricité, il faut brûler deux fois cette quantité sous forme de gaz, et ça de manière locale en plus, donc aux portes des data centers, un contresens, d'autant plus que c'est cher, hein. Le prix du gaz est bien moins attractif que celui de l'électricité, mais vous l'aurez compris, pour l'instant, l'économie de l'IA, c'est une énorme bulle, et tout ce qu'on peut investir va dedans, même si c'est pas rentable. Et d'ailleurs, ça ne refroidit pas les géants de la tech, hein, puisque Google, Amazon, Meta ou Microsoft prévoient un total de 650 milliards de dollars d'investissement pour surfer sur l'explosion de l'IA. Alors pour l'instant, en France, il n'y a aucun raccordement prévu à court terme, hein, rien n'a été signé. Mais le problème, c'est que GRDF n'a pas le droit de refuser, hein, c'est un fournisseur public. Donc tant que la personne en face est prête à payer, ils sont tenus normalement légalement de raccorder les data centers. Ces usines à serveurs de nouvelle génération, donc calibrées, je vous le disais, pour l'IA générative, atteignent des tailles jamais égalées. Hein. Le dernier projet connu, qui a passé fin 2025 l'étape du débat public, vise une emprise au sol de 70 hectares, ça sera en Seine-et-Marne, avec une capacité électrique de 1,4 gigawatt nécessaire à lui tout seul, ce qui équivaut à la production de 3 réacteurs nucléaires. Et si on va voir un peu aux États-Unis qui sont en pointe dans le secteur, au Texas, hein, Google s'apprête à brancher un gigantesque centre de données sur le Texas. L'émission de gaz à effet de serre anticipée serait environ de 4,5 millions de tonnes par an, ce qui est plus que, par exemple, la ville entière de San Francisco. Voilà, depuis un an, la France semble faire tout pour devenir elle aussi un Eldorado des centres de données, cherchant à saturer un peu une petite part du gâteau de cette industrie florissante, et à régler notamment un épineux problème de souveraineté numérique avec toutes les données et les applications liées à l'IA, des technologies qui sont en effet largement hébergées aux États-Unis, qui répondent aux lois états-uniennes et qui sont donc bien moins régulées que ce que pourrait l'être une entreprise française ou européenne. Voilà, aux États-Unis, là aussi, le gaz apparaît comme l'unique moyen de disposer rapidement d'électricité pour ces futurs data centers. Et ça fait déjà un tiers de la capacité gazière du pays qui est consacrée déjà aujourd'hui aux data centers et au moins 80 centrales électriques au gaz qui sont en projet d'ici 2030. Voilà, Meta, la maison mère de Facebook, prévoit la construction d'un centre de données de 2 gigawatts en Louisiane, alimenté là aussi au gaz. C'est d'ailleurs aussi 2 gigawatts la puissance d'autres turbines à gaz que compte installer Elon Musk. Lui, il a fait une levée de fonds pour ça, de 20 milliards. Ou on peut parler aussi de Microsoft qui vient de signer un accord avec Chevron pour la construction d'une centrale électrique au gaz de 2,5 gigawatts. Là, on est dans l'est du Texas.
Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros.
On en a gros.
Et ouais, l'argent, pour faire tourner tout ça, il en faut. Allez, on déborde un petit peu sur le timing, puisque je vous le disais en introduction, on a un invité en studio aujourd'hui et toute la semaine avec nous, chez Radio Escapade, c'est Yannou qui nous a contacté pour un petit stage d'une semaine. Yannou qui s'intéresse notamment aussi, lui aussi, à des solutions peut-être technologiques pour l'avenir, mais d'autres manières. Et donc, il voulait vous présenter aujourd'hui l'économie bleue. Yannou, le micro est à toi. Attends, vas-y, pardon, ça tournait pas. Recommence. Ah, je ne t'entends pas. Voilà, pardon, c'est ma faute.
Après cette actualité qui ne fait pas très rêver, j'espère vous redonner un peu d'espoir. Mais alors, qu'est-ce que c'est l'économie bleue ? Il s'agit d'un modèle économique imaginé par le professeur économiste Günther Pauli, qui propose d'utiliser ce que l'on a autour de nous pour répondre aux besoins de tout le monde. Pourquoi avons-nous besoin de transformer l'économie aujourd'hui? nous avons une économie d'échelle, ce qui veut dire que pour rester concurrentiel envers les concurrents, il faut que le prix des produits proposés soit toujours moins cher, comme le fait très bien la Chine. Pour casser les prix, il faut diminuer les effectifs, faire produire dans les pays où la matière, où les main-d'œuvre est moins chère, excusez-moi, et surtout de ne pas se poser de questions si ce que l'on en fait a un impact négatif sur l'environnement, ce qui crée par ailleurs des dettes financières et surtout envers l'environnement. Imaginez aujourd'hui, pour une tasse de café que vous ingérez, il y a 0,2% qui vient dans votre corps de la totalité du biomasse du caféculteur. Et les 99,8% sont destinés à pourrir en immense tas et produire du méthane, ce qui affecte la santé de la population locale. Au mieux, cette biomasse très humide est brûlée pour générer de l'électricité. Tout ça, c'est l'économie d'échelle. Alors vous allez me dire, bah c'est pas top, mais il y a encore l'économie verte. Il y a aussi l'économie verte qu'on appelle bio, où tout ce qui est bon pour la santé est bénéfique pour l'environnement, mais c'est cher. Ce n'est pas possible que l'on bâtisse une société durable si vous avez une économie où tout ce qui est cher, où tout ce qui est bon est cher. Pour moi, ce qui m'a conquis, c'est l'économie bleue. Vous savez, dans la nature, il n'existe pas de déchets. Tout redevient toujours, soit matière, énergie ou nutriments pour quelqu'un d'autre. Nous avons tous autour de nous des solutions pour faire face aux défis d'aujourd'hui. Dans l'économie bleue, nous apprenons et récoltons toutes les bonnes idées de la nature qui ont été expérimentées depuis des milliers d'années en les transformant en projets concrets pour le bien commun. Si nous reprenons l'exemple du marc de café, les 99,8% de déchets, nous allons les transformer en substrat pour produire des champignons. Après culture des champignons, le marc qui a été colonisé par le mycélium devient un fourrage de haute qualité pour le bétail.
Et alors là, toi, t'as découvert cette économie bleue, mais comment est-ce qu'elle prend part vraiment aujourd'hui, notamment par exemple en France? Comment est-ce que ce Gunther, là, Pauli, met ça en place?
Alors aujourd'hui, l'économie bleue, en France, elle est très peu développée. Parce qu'il y a pas mal de personnes que ça dérange, parce qu'on change complètement de modèle économique. Par ailleurs, en Chine, en Afrique, aujourd'hui, c'est beaucoup développé, beaucoup plus. Et comment c'est développé? Alors, en général, c'est des entrepreneurs, des politiciens et toutes des personnes comme ça, des élus locaux.
Qui ont un pouvoir d'agir, en tout cas.
Voilà, qui ont un pouvoir d'agir ou qui viennent le voir pour lui demander, ils ont des problèmes et ils lui exposent les problèmes. Et Gunther Pauli va chercher des solutions. Alors lui, il en a déjà d'avance. Il en a 112 des projets qui sont mis en place. C'est des technologies, il y a 112 technologies. Après, il y en a beaucoup plus de projets, bien sûr. Et après, donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va regarder toutes les solutions au problème. Et s'il n'en trouve pas, en général, il en trouve une, mais s'il n'en trouve pas, il appelle son équipe Zeri, qui va analyser, qui, c'est des chercheurs, 3000 chercheurs, qui vont analyser le problème et puis ils vont essayer de le résoudre. Et après,
Gunther
Pauli, oui.
Et du coup, après, il propose ça aux dirigeants.
Et voilà, après, il propose ça aux dirigeants et ils vont le donner. Ils vont essayer de le mettre en place et pour recréer des économies, par exemple, tout ce qui est dans l'animal, dans les protéines. Il y a des gros manques de protéines dans certains pays et donc il y a des solutions pour régler ces problèmes.
Et alors toi, à un titre plutôt personnel, tu as découvert ça donc, récemment et je crois que tu avais envie de participer un peu à ce projet. Comment est-ce que tu t'engages là-dedans?
Alors moi, j'ai découvert ça il y a à peu près une année et ça m'a vraiment... En gros, je voulais devenir entrepreneur et puis déjà, je peux dire comment j'ai découvert ça. Je voulais devenir entrepreneur et puis en faisant des recherches sur Internet, j'ai découvert Gunther Pauli qui vraiment... Je me suis dit, ah mais là, ça c'est la solution pour demain. Parce que je me disais, aujourd'hui dans la société, faire quelque chose qui est éthique, qui est rentable, c'est vraiment compliqué d'allier, de ne pas faire d'impact sur la planète, de ne pas faire de déchets, tout ça. C'est vraiment compliqué. Alors, quand j'ai découvert ce monsieur... je me suis énormément renseigné dessus, j'ai lu des livres et tout ça dessus, sur lui, qu'il a écrit. Puis, je me suis dit, je vais lui envoyer une lettre pour discuter, pour savoir si je pourrais l'aider ou enfin, au moins, le rencontrer. Et quelques mois après, j'ai reçu un retour favorable qui fait qu'aujourd'hui, je travaille sur le site des fables, Gunther's Fables. En gros, c'est Gunther Pauli qui a écrit des fables pour inspirer les enfants à devenir entrepreneurs, à changer le modèle d'affaires et après, comme ça, le mettre dans la société actuelle. C'est surtout pour les inspirer. Et donc, c'est vraiment bien développé pour l'instant, pas du tout en France, mais en Chine. Dans plein d'autres pays, c'est vraiment développé. Il y a plus d'un milliard 200 000 fables qui ont été vendues.
Donc, toi, tu travailles donc sur les versions françaises.
Donc là, moi, mon but, c'est développer les versions européennes et françaises, de développer ça pour la France et pour l'Europe, pour inspirer les jeunes de demain.
Ok. Merci Yannou pour cette présentation. Et donc, tu reviendras jeudi. Et on s'était dit que peut-être que jeudi, tu nous présenterais justement un exemple concret de technologie.
Oui. Et puis aussi, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site blueeconomy.org. Ça, c'est le site où vous allez trouver l'économie bleue. Et si vous êtes intéressé par les fables de Gunther pour vos enfants, ou pour d'autres personnes, c'est guntersfable.org. C'est sur le site que je travaille actuellement.
Ok, merci à nous. On se donne rendez-vous alors jeudi pour des suites là-dessus.
Merci à vous.
Regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio.
Monsieur, des informations, il y en a plein. Hein. Par exemple, il y en a plein. Hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international. Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.